semaine. Découvrez toute l'offre des activités sportives en piscine sur leur site web. À noter également que les formations aquatiques, qui mènent au rôle d'assistant-assistante-sauveteur et à un possible premier emploi étudiant, sont offertes gratuitement à partir de la session de l'hiver 2023. Pour avoir les qualifications pour donner des cours de natation, vous devez suivre le cours moniteur-monitrice de natation. Par ailleurs, le YWCA recrute une personne fiable et expérimentée pour occuper le poste de sauveteur-sauveteuse et moniteur-monitrice à temps plein. Toutes les informations sont disponibles au ywcaquebec.qc.ca. Le Centre Materia et le duo d'artistes Viatour Bertium sont heureux de vous inviter au vernissage de l'exposition « Jeux de mémoire ». Le vernissage aura lieu ce jeudi dès 17h au 395 boulevard Charest-Est. « Jeux de mémoire » recrée des arrêts sur images de l'enfance des artistes Viatour Bertium pour en faire de petites scénettes emplies de l'ambiance de l'époque. Mariant culture matérielle, références populaires, objets personnels et œuvres originales, cette exposition est aussi le reflet de la société québécoise entre la fin des années 50 et le milieu des années 70. Celle-ci se poursuivra jusqu'au 19 février. Pour rappel, l'Assemblée générale annuelle de CKIA FM aura lieu ce soir. Rendez-vous ce jeudi 12 janvier à 19h à la Corrigan, au 380 rue Dorchester. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'écoute de CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Homère n'a encore jamais été imprimé en anglais, ni Échille, ni même Virgile. Œuvre aussi raffinée, aussi robuste et aussi belle, presque, que le matin lui-même. Car les auteurs moins anciens, quoi qu'on puisse dire de leur génie, ont rarement, s'ils l'ont jamais fait, égaler la beauté complexe et la perfection qu'atteignirent les anciens par l'héroïque labeur littéraire de toute une vie. Seuls ceux qui ne les ont jamais connus parlent de les oublier. Il sera bien temps de les oublier lorsque nous posséderons le savoir et le génie qui nous permettront de nous consacrer à eux en les appréciant. L'ère sera vraiment riche où ces reliques que nous nommons classiques, ainsi que les écritures des nations plus anciennes et plus classiques, mais moins encore connues encore, se seront encore plus accumulées lorsque les Vatican se seront remplis de Védas, de Zen Advesta et de Bible, mais aussi des œuvres de Homère, Dante et Shakespeare, et lorsque les siècles à venir auront les uns après les autres déposé leurs trophées dans le forum du monde. Du haut d'une telle pile, peut-être pourrons-nous enfin envisager d'atteindre les cieux.
impossible d'écrire bien et sincèrement si on ne fait pas dans la joie. Le corps, les sens doivent travailler avec l'esprit. L'expression est l'acte du corps tout entier. Que notre parole soit parcourue de vaisseaux. L'intelligence est impuissante à exprimer la pensée sans l'aide du cœur, du foie et de tous les membres. Je sens souvent que ma tête se dresse trop sèche, alors qu'elle devrait être immergée. Un écrivain, un homme en train d'écrire, est le scribe de toute la nature. Il est le blé, l'herbe et l'atmosphère en train d'écrire. Le corbeau, l'oie, l'aigle étiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais. Le corbeau, l'oie, l'aigle tiennent ma plume, et le vent porte ses pages aussi loin que je vais.
Pour écrire, j'ai devant moi.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Alors, aujourd'hui, on a un invité spécial, Daniel Desroches, qui est professeur de philosophie au Cégep. Et ça fait longtemps que on l'a déjà eu à l'émission il y a quelques années, mais ça faisait longtemps que je voulais le revoir à l'émission parce que Daniel a écrit un livre là, qui s'appelle « La philosophie comme mode de vie ». Et c'est la thématique de l'émission. Alors, il est spécialiste de Pierre Hadot, entre autres, dont on a beaucoup parlé à l'émission. Donc, on va avoir une émission complète avec mon ami Daniel Desroches. Ça valait la peine de braver la tempête pour me rendre au studio aujourd'hui pour ça, parce que, et c'est ça que je disais, c'est difficile d'avoir Daniel parce qu'il enseigne le vendredi, le jour de l'émission. Donc, pas facile de l'avoir en entrevue. Donc, voilà. Daniel, est-ce que tu es avec nous?
Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien?
On t'entend très bien.
Merci pour l'invitation, Jacques. C'est très gentil.
Je suis vraiment content qu'on puisse t'avoir enfin à l'émission. Ça faisait un bout de temps que j'espérais cette entrevue-là. Puis, c'est ça. Il y a les réalités, là. Tu dois gagner ta vie, alors... ça donne que c'est le vendredi ton cours. Alors, comme je disais en introduction, tu es un peu un spécialiste de Pierre Hadot parce que on peut dire que ton livre sur la philosophie comme mode de vie est beaucoup inspiré du travail de Pierre Hadot. Et on en a beaucoup parlé à l'émission, mais là, on a un spécialiste avec nous. Ça fait que je vais commencer, première question pour nos auditeurs. Si tu pouvais brièvement nous présenter qui est Pierre Hadot. On en a beaucoup parlé, mais on n'a jamais vraiment parlé de Pierre Hadot lui-même.
Mais d'abord, il faut... Je serais assez modeste. Je ne me considère pas du tout comme un spécialiste de Pierre Hadot. Je me suis intéressé beaucoup à la philosophie comme mode de vie ou à la philosophie comme manière de vivre. Mais parce que dans le fond aussi, j'ai essayé de travailler à enrichir la perspective philosophique de Pierre Hadot. En deux mots, Pierre Hadot, est-ce que c'est un philosophe? Ça peut être matière à discussion. On pourrait en débattre, Jacques, de savoir si c'est un philosophe. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est d'abord un helléniste. C'est un spécialiste des textes anciens. C'est un traducteur des textes importants de la philosophie ancienne. Et puis son parcours, eh bien, c'est un contemporain. Il est né en 1922. Pierre Hadot est un Français. Et il va décéder en 2010, donc il y a une dizaine d'années, là. Donc son parcours, 1922-2010. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Pierre Hadot avait des intérêts philosophiques alors qu'il était tout jeune. Il se préoccupait de questions qui relèvent pour nous un peu de la mystique, qui se demandait quel était le rapport au monde qui était le plus complet. Ça donnait lieu à un jeune homme qui avait des préoccupations religieuses et qui faisait à la fois de la philosophie et qui avait des préoccupations pour le christianisme. Il était ordonné prêtre, mais il a poursuivi sa formation en philosophie et puis il a fait une thèse doctorat sur un rhéteur qui est peu connu, un certain Victorinus. Et puis finalement, il a travaillé par la suite, là, il y avait déjà des contrats de recherche. Il a travaillé sur Plotin, il s'est marié, puis c'est le premier à écrire sur Wittgenstein en France. Et puis, pour terminer, ce qui est important, c'est que c'est Michel Foucault qui l'a sorti de l'ombre, c'est-à-dire qu'à l'époque, il avait écrit un article qui s'appelle « Exercice spirituel », puis Michel Foucault, en lisant ça, lui a envoyé une invitation et il a été nommé au Collège de France, donc... Collège de France. En 1983, il donne sa leçon inaugurale et à partir de là vont paraître les livres importants de Pierre Hadot. On connaît surtout maintenant, en fait, la Stade à l'intérieur. On connaît qu'est-ce que la philosophie antique et des traductions du manuel d'Épictète et des pensées de Marc Aurèle. Donc, ce serait un peu ma manière, Jacques, de te présenter Pierre Hadot comme un spécialiste des textes anciens, un helléniste qui a révolutionné notre vision de la philosophie quand on parle aujourd'hui de la philosophie comme manière de vivre.
Bon, alors oui, au moins là, on sait à qui on a affaire avec Pierre Hadot. Mais pourquoi on a beaucoup parlé de Pierre Hadot dans l'émission en toute simplicité? C'est que Pierre Hadot, je dirais qu'il a comme... il nous donne une clé, et c'est ça qui est spécial de l'œuvre de Pierre Hadot. Il nous a donné une clé pour comprendre la philosophie. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup à l'émission de Pierre Hadot. Puis, ben, j'en parlerai pas plus loin, un peu plus. Je vais te laisser un peu nous parler de la clé que Pierre Hadot nous a léguée.
Oui, ben là, je ne sais pas exactement ce que tu as en tête quand tu parles d'une clé, mais juste avant de te donner celle que moi je présente dans la philosophie comme mode de vie, dans le livre que j'ai écrit, il faut rappeler que Pierre Hadot a fait une découverte, c'est-à-dire qu'il nous a aidé à redécouvrir la philosophie antique. Il se demandait lui-même comment doit-on comprendre les textes anciens? Là, il faut s'imaginer, Jacques Delorme, que c'est quelqu'un qui traduit des textes anciens, et il se demande qu'est-ce qui m'assure que je comprends bien les textes que je veux traduire. Et là, il se dit, au fond, comment expliquer la diversité des genres littéraires en philosophie antique? Vous savez, en philosophie antique, on va trouver des dialogues de Platon, des poèmes sur la nature, on va trouver des lettres, on va trouver toutes sortes de genres littéraires, des consolations. Il se dit, mais tous ces genres littéraires variés, comment se fait-il qu'on ne les trouve pas en philosophie moderne? Comment se fait-il qu'il y ait une telle diversité? Et il se demande, comment expliquer les incohérences des textes en philosophie antique? Les philosophes débutent, ils posent une question, ils ne répondent pas directement à leur question. Et là, on se rend compte, nous dit Pierre Hadot, que ce n'est pas des textes de philosophie moderne. L'important en philosophie antique, ce n'est pas de livrer une information à partir d'une question comme dans un article philosophique, mais ce que recherche la philosophie moderne, c'est un effet de formation. Ce que recherche la philosophie moderne, ce que recherche la philosophie antique, c'est un effet de transformation, comme dans une relation de maître à disciple. Et là, ben Jacques, j'aimerais savoir si là-dessus tu me suis toujours, avant que je te parle de la clé que moi j'ai trouvée chez Pierre Hadot.
Oui, ben je te suis toujours là. En fait, je vais te laisser finir, puis je vais compléter si je vois que. Bon, ça rejoint pas vraiment ce que... Mais là, je pense que tu es dans la bonne direction, là, dans le fond. Là.
Alors, c'est bien gentil de me rassurer. Donc, ce que Pierre Hadot nous dit, au fond, c'est que pour comprendre la philosophie antique, il faut comprendre le contexte dans lequel elle a émergé. Et elle a émergé dans un contexte, ce sont des écoles philosophiques. La philosophie est d'abord communautaire. C'est des gens qui se rencontrent, qui discutent ensemble. Oui, ils écrivent, ils partagent des textes, mais essentiellement, ils partagent des préoccupations qui sont de nature spirituelle. Et quand Pierre Hadot nous parle de philosophie antique, il nous parle du choix d'une vie philosophique. Et moi, la clé que j'ai un peu développée dans le cadre de mon livre, là, c'est de dire, au fond, la philosophie, c'est d'abord un genre de vie, c'est le choix d'une manière de vivre. Première dimension, il y a une dimension existentielle. Deuxième aspect, ben, cette philosophie, ce choix de vie, il s'accompagne de discours, il s'accompagne d'une certaine forme de justification de pourquoi être un socratique, pourquoi être un épicurien, pourquoi être un cynique, un stoïcien ou un sceptique, ou pourquoi être pythagoricien. Donc d'abord un choix de vie, on choisit une école, on choisit une attitude existentielle. Ensuite, on écrit pour justifier cette attitude-là, ce choix de vie. Puis finalement, ce choix de vie s'accompagne d'un ensemble de pratiques, d'un ensemble d'exercices spirituels. Et cette clé que j'ai développée pour chacune des écoles philosophiques, c'est une clé qui comporte un peu comme trois dimensions, un choix de vie, ou une attitude philosophique, un rapport au discours de la philosophie, un rapport qui explique finalement pourquoi cette école-là est importante, puis à la fin, un ensemble de pratiques qui nous permettent de se rapprocher d'un idéal de vie. C'est la clé que je propose dans la philosophie comme mode de vie.
Bien, moi, ce que je disais, en tout cas, c'est, je simplifiais un peu là, ce que tu viens de dire, c'est que en fait, ce que j'ai compris de Pierre Hadot, c'est qu'il disait que dans le fond, les philosophes de l'Antiquité avaient une question qu'ils posaient, comment bien vivre? Et le comment bien vivre, il n'y a pas mille façons de bien vivre, ça se recoupait beaucoup d'une école à l'autre, sauf que il y avait des angles d'approche différents du comment bien vivre, mais essentiellement, puis c'est pour ça que notre émission, c'est une émission sur la philosophie, parce que la simplicité volontaire, c'est un mode de vie philosophique. L'émission, la thématique de l'émission, c'est la simplicité volontaire et en toute simplicité. Et c'est en sous-titre, le mode de vie philosophique, parce que les anciens, la question qu'ils posaient, c'était comment bien vivre. Et ce que Pierre Hadot nous a dit, c'est que ça a changé, ça. Aujourd'hui, la philosophie, c'est plus ça, c'est plutôt comment bien penser ou comment réfléchir. Je ne sais pas si c'est exact de dire ça comme ça, mais on a abandonné cet aspect-là de comment bien vivre. D'ailleurs, Il y a des grands philosophes, même Socrate, le grand philosophe Socrate, n'a jamais écrit, dans le fond, une ligne. Là, c'était Platon qui rapportait les propos de Socrate. Mais Socrate, en tant que philosophe, lui, c'était tout simplement quelqu'un qui est un citoyen d'Athènes qui parlait aux jeunes, puis il leur faisait réfléchir sur leur certitude. Alors, c'était vraiment un mode de vie, puis même d'autres, des grands philosophes. Dans l'Antiquité, il y en a plusieurs qui n'ont jamais rien écrit. C'était des ils vivent. En fin de compte, c'était un mode de vie. Puis c'est d'ailleurs aussi, Pierre Hadot nous en a parlé là, de ça, c'est que pourquoi on parle beaucoup de taureaux. J'ai lu un extrait de taureau un peu exalté là, sur les anciens au début de l'émission. Mais quand tu ne le saches pas, je lis à chaque émission, je lis un extrait de Walden de taureau. C'est que taureau incarne ça.
Si on prend les choses de ce point de vue-là, on pourrait dire que là où il y a une clé d'interprétation de la philosophie antique, c'est de dire que c'est d'abord une manière de vivre, c'est un mode de vie, c'est un style d'existence qui s'accompagne d'un ensemble de pratiques, d'un ensemble d'exercices spirituels. Le terme grec, c'est le terme askésis, le terme d'épreuve, le terme d'effort, travail sur soi. Et le discours philosophique, qui est si important en philosophie moderne ou en philosophie contemporaine, ce discours philosophique-là, ce qu'on dit en philosophe, c'est toujours subordonné à un choix de vie. C'est toujours subordonné, finalement, à un certain mode de vie que l'on reconnaît aujourd'hui aux grandes écoles antiques, qu'il s'agisse de l'école de Socrate, de l'école, même de l'école de Platon, l'Académie, l'école d'Aristote, le lycée, où, finalement, les grands modes de vie, socratisme, cynisme, scepticisme, épicurisme, stoïcisme, et il y en aurait d'autres qu'on pourrait nommer aussi, et ça rejoindrait la philosophie orientale. Et ça rejoint, je pense, l'idée de Thoreau, que la philosophie est un mode de vie, puis de la simplicité volontaire aussi.
Oui. Jacques Sénécal, que tu connais, là, qui est notre philosophe invité régulier, là, en toute simplicité, m'a souvent dit que celui qui se rapprochait le plus de la simplicité volontaire, c'était Épicure. Mais, en tout cas, ça, c'est le point de vue de Jacques, là. Mais on a beaucoup parlé d'Épicure.
Les gens pourraient dire que les cyniques sont aussi proches de la simplicité volontaire parce qu'ils vivent avec presque rien. Ils trouvent leur bonheur ou leur raison d'être dans la force intérieure, d'une certaine façon, dans le fait d'être invulnérable, dans le fait de mettre... Finalement, c'est l'action sur soi qui est importante plutôt que l'action qui transforme le monde. Enfin, on pourrait discuter pour savoir, mais il est vrai que dans toutes les écoles antiques, il y a une préoccupation pour la vie simple, la vie simplifiée, un certain rapport à soi où, finalement, plutôt que de dépendre des choses, on fait reposer sur soi notre réalisation de nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai pour Socrate, c'est vrai pour les cyniques. Les épicuriens vivent très, très simplement dans leur jardin. Il n'y a pas de préoccupation matérielle majeure. La préoccupation, c'est de vivre le plaisir. On pourrait trouver la même chose chez les sceptiques et chez les stoïciens aussi.
Bon. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Puis, au retour, je voudrais que tu nous parles un peu de l'autre l'autre grande découverte, en tout cas. Un des propos importants de Pierre Hadot, qui sont les exercices spirituels. Alors, on prend une petite pause musicale, puis on revient, Daniel, sur les exercices spirituels.
À tantôt.
Hi, hi, hi. temps sacré de l'autochtone. Ce n'est pas un cadran qui sonne, il est des lunes et des saisons. Sans une fortune à l'horizon, c'est tout le temps d'une culture, d'une cueillette dans la nature. Parfois celui d'un long silence face à l'homme blanc qui est sans patience. Aïe, aïe, aïe. Et moins il donne. Le conquérant qui réquisitionne sciences ancestrales et traditions, les traites de superstition. Il veut niveler l'autre culture à force de coups et de blessures. L'Indien le met sous surveillance. Cet homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Vient le moment où le glas sonne et où le tonnerre résonne. Pour les terres en spéculation, les mers en surexploitation, le capital en démesure, se garde la planète en peinture. L'Indien fait preuve de résistance devant l'homme blanc qui est sans patience. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. De la nuit des temps, tout ce que j'entends, il y a plus d'une voix qui dit respecte la vie. Hi, 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 hi
Alors, c'était Jean-Marc Aurel, Respecte la vie. De la nuit des temps, il dit, de la nuit des temps, j'entends cette phrase, respecte la vie. On va aborder ça tantôt à la fin de l'émission, les anciens. Comment ils voyaient ça, eux autres, la vie? Puis est-ce que c'était des écologistes, les anciens? Mais avant ça, on va revenir à Pierre Hadot. Comme je disais avant de nous quitter, avant la pause musicale, Pierre Hadot, je dirais, un des concepts clés, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, qui a mis de l'avant, c'est l'idée des exercices spirituels. Et c'est lié un peu à ce qu'on se disait tantôt aussi, une des les clés pour comprendre la philosophie, la clé qu'il nous a donnée pour comprendre la philosophie, puis c'est lié aux exercices spirituels. Ça fait que j'aimerais bien que tu nous en parles de ce concept-là que Pierre Hadot a mis de l'avant, les exercices spirituels.
Mais d'abord, Jacques, il faut savoir que la notion d'exercice spirituel mettait Pierre Hadot lui-même un peu mal à l'aise, parce qu'il se disait, au fond, exercice spirituel pour une personne qui ne connaît pas nécessairement la philosophie antique, c'est comme si ça nous plaçait du côté de la religion, du christianisme et tout ça, et Pierre Hadot voulait se détacher de ça. La notion d'exercice spirituel est déconnue surtout à cause d'Ignace de Loyola, dans un livre qui, justement, porte sur ces exercices dans la perspective chrétienne et même dans la perspective... À la perspective chrétienne, donc, et lui, il voulait se détacher de ça, et il était influencé, finalement, par un certain Paul Rabot, qui utilisait une notion tout à fait similaire à exercice spirituel pour parler de la conduite de l'âme, et il a défini la notion d'exercice spirituel d'une manière à, vraiment, là, nous placer uniquement du point de vue de la philosophie. Pierre Hadot nous dit, au fond, exercice spirituel. Bon, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une pratique volontaire, d'une pratique personnelle destinée d'une pratique qui est destinée à opérer une transformation de soi, une pratique qui est destinée à créer, à permettre un changement d'attitude existentielle. Et là, en philosophie antique, il y a plusieurs de ces exercices-là. La notion qu'on va trouver chez Michel Foucault, c'est celle de pratique de soi. C'est un peu différent pour Michel Foucault, mais en gros, c'est ça qu'on veut dire par exercice spirituel. Pierre Hadot nous dit, on n'a pas de liste de ça, mais dans toutes les écoles, on va retrouver ces exercices spirituels, ces pratiques-là.
En tout cas, pour avoir lu un peu, il nous donne quand même des descriptions ou des exemples de différents exercices spirituels, parce que ça ressort dans les textes des anciens, entre autres, beaucoup, si on pense à Marc Aurèle, par exemple. d'escalader une montagne pour voir les choses de haut. Puis c'est un exercice, dans le fond, qui est pas... C'est rien de magique, là. C'est tout simplement de voir les choses de haut. Puis c'est vrai que escalader une montagne, ça nous transforme. Ça nous permet d'avoir un recul sur les choses, d'avoir un regard, je dirais, philosophique. En tout cas, je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça, toi.
J'en ai plusieurs exemples, mais juste avant d'en donner, on pourrait, là-dessus ici, Pierre Hadot dirait, il y a des pratiques qui se rapportent au corps, il y en a d'autres qui vont se rapporter à l'âme, puis il y a des pratiques qui sont plus communautaires, qui vont permettre de nourrir le tissu social. On pourrait les décrire autrement. Il y a des pratiques du rapport à soi, des pratiques du rapport aux autres et des pratiques de la relation avec la nature. Et là, s'ouvre, Jacques, là, un ensemble de pratiques ou d'exercices spirituels qui vont du dialogue chez Socrate et Platon à la contemplation à laquelle tu fais allusion. On pourrait dire qu'il y a aussi l'examen de conscience. On pourrait dire qu'il y a des pratiques pour contrôler ses pensées, des pratiques comme de contrôle de représentation, des pratiques comme la méditation, mais ça peut être la méditation par écrit, ça peut être aussi une méditation. Aujourd'hui, on parle de méditation en pleine conscience. Il y a les pratiques de prise de notes, des hypomnémata qui sont les notes personnelles qui vont servir à affermir finalement le choix de vie, le dosage du plaisir chez les épicuriens. Donc, il y en a toute une gamme de ces... La diète, hein, Michel Foucault s'est intéressé aussi à la diète, des pratiques de rapport à soi comme ça, des pratiques de rapport au corps. Puis, je prendrais un seul exemple. L'exemple, je dirais, qui est celui qui est classique depuis Platon et Socrate, ben le dialogue. Lorsqu'on échange avec des gens, on n'est pas en train de réaliser un dialogue philosophique. Avec Socrate, le dialogue procède par questions et par réponses et il vise à clarifier l'âme de l'interlocuteur, à clarifier ses idées, ses pensées, de quelle façon cette personne-là est en chemin vers la vérité. Et quand on discute ensemble aujourd'hui, on a un échange. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un dialogue philosophique? Si oui, c'est un dialogue qui va conduire à la transformation de soi, genre qu'on va clarifier nos idées de manière à se rapprocher d'un idéal de sagesse, de la Sophia, et on voit que les pratiques sont quand même, c'est exigeant. Les pratiques, c'est quelque chose qui vise effectivement un changement de notre attitude pour nous amener à un plan de vie supérieur.
Puis, une des pratiques, mais qu'on en a beaucoup parlé à l'émission, qui les anciens pratiquaient, d'ailleurs, il y a, je ne me souviens plus laquelle des écoles, je me demande si ce n'est pas Socrate, en tout cas, c'était la marche. Et puis,
oui, elle est présente chez Thoreau. Oui. Elle est présente chez Thoreau. D'ailleurs, l'idée de simplifier sa vie chez Thoreau, c'est une pratique. Thoreau le dit tel quel, simplifier, simplifier, simplifier. La marche, à tous les jours, Thoreau marche énormément. C'est une forme de méditation active pour Thoreau, la marche. Et on sait que d'autres auteurs, d'autres écrivains marchaient. C'est le cas de Rimbaud comme poète, écrivain. Mais donc, c'est une pratique, la marche.
Oui, et puis je pense que c'est Socrate qui enseignait en marchant.
C'est Aristote. L'école d'Aristote, au lycée, il y a des conversations en marchant, des dialogues en marchant qui ont finalement influencé le nom de l'école. Nous, on parle de l'école d'Aristote comme le lycée, mais je ne sais pas, Jacques, si tu peux te rappeler de ça, mais les péripatéticiens, c'est le nom que les Grecs donnaient aux disciples de l'école, aux disciples d'Aristote. Péripatéticiens, c'est des gens qui philosophent en marchant.
C'est ça, ils enseignaient en marchant.
Puis, oui, qui enseignent et qui philosophent en marchant.
Et c'était pas une fantaisie. Ils savaient que la marche avait quelque chose en soi de transformateur. Nous autres aussi, quand on fait nos activités, le groupe de Saint-Pierre volontaire, je ne sais pas si tu as remarqué, on fait des cercles de discussion. Ça, c'est la pratique de la discussion en cercle, c'est immémorial. Puis ça aussi, c'est en soi, c'est un exercice spirituel. Il y a comme ça permet de créer une espèce de sentiment de communauté. Alors, il y en a une pléthore là, d'exercice spirituel, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'Ado, Pierre Ado, là, en lisant les textes des anciens, il voyait qu'il y avait des exercices spirituels partout.
Exactement. Exactement, mais en même temps, Jacques, tu vois, il mise sur l'aspect conscient, l'aspect volontaire. C'est important, il faut savoir ce qu'on fait lorsqu'on a une pratique philosophique. Oui, il y a des pratiques célèbres chez Platon. Apprendre à mourir, ben ça c'est pas juste une formule là qu'on trouve chez Platon, c'est un exercice spirituel qui est d'apprendre à vivre avec la partie la plus haute de nous-mêmes. Pour Platon, c'est l'âme, pour nous on dit vivre en toute conscience, vivre avec sa raison, c'est apprendre à vivre. Pierre Ado voit des pratiques partout, apprendre à lire, apprendre à dialoguer. Et oui, effectivement, je partage cette préoccupation là avec toi. Toute occasion peut être bonne pour s'exercer et pour devenir meilleur. Et là, ben ça va là, même bon chez les sceptiques, la suspension du jugement, plutôt que de se prononcer à chacune des occasions où on pourrait livrer notre opinion, on pourrait suspendre notre jugement. C'est une pratique qu'on a retrouvée dans la philosophie moderne chez Descartes et chez Husserl. Tantôt, j'ai fait allusion à la méditation par écrit. C'est une pratique qu'on va retrouver chez Descartes, les méditationnistes. Donc, il y en a partout. Et toi, tu faisais tantôt allusion au point de vue d'en haut, une pratique par laquelle on se détache du moi égoïste. On adopte une vue en surplomb, comme si on était à distance du monde, le point de vue de Sirius, une planète lointaine, et on voit le monde humain en le replaçant à sa juste mesure. Hein. Et là, on a un rapport différent à notre expérience, à notre existence.
Même que, j'ai trouvé ça intéressant, Pierre Ado, il disait, même quand on regarde des textes des anciens, il faut faire attention parce que certains de ces textes-là, ou peut-être même la plupart, n'étaient pas faits pour... transmettre la connaissance. C'est un exercice spirituel que, entre autres, on pense aux pensées de Marc Aurèle.
Oui, Pierre Ado,
c'est fabuleux, on a retrouvé ses pensées, puis on peut s'en servir comme texte philosophique, mais Pierre Hadot pense tout simplement que Marc Aurèle écrivait ses pensées comme une... C'était un exercice spirituel qu'il faisait.
Et comment est-ce qu'il a découvert ça, Jacques? C'est qu'il se demandait, oui, mais il y a des traits caractéristiques des pensées. On peut avoir l'impression, en lisant les pensées de Marc Aurèle, que c'est particulièrement pessimiste à l'égard du monde, que les pensées sont désordonnées, que finalement les pensées sont dans un tel désordre, un tel état d'incohérence qu'on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment, de quelle façon est-ce qu'on peut les rattacher au stoïcisme. Et là, ben, Pierre Hadot découvre qu'il y a trois lieux importants du stoïcisme d'Épictète qu'on retrouve chez Marc Aurèle. Et de cette façon-là, on peut lire Marc Aurèle qui s'exerce avec ces trois lieux que sont la physique, la logique et l'éthique. Donc, la relation au monde, la physique, la relation à la pensée, aux représentations, la logique, et la relation à l'action juste, l'éthique, et qu'on retrouve partout dans les pensées de Marc Aurèle. Donc, les pensées de Marc Aurèle, c'est un exercice philosophique par lequel l'empereur travaille à devenir à tous les jours de plus en plus stoïcien, même si parfois le ton est pessimiste.
Là, l'émission avance, il nous reste encore 10-15 minutes. Parce que j'ai deux autres thématiques que je voudrais aborder avec toi. Alors, on a commencé par présenter Pierre Hadot, on a parlé de la clé qu'il nous a donnée pour comprendre la philosophie. Ensuite, l'autre élément important de Pierre Hadot, c'est le concept d'exercice spirituel. Puis là, il y a un troisième aspect que là, je veux vérifier avec toi, c'est que à l'émission, on a commencé cette année une série sur les vertus. On lit des extraits là, du livre d'André Comte-Sponville, Petit traité sur les vertus. Alors, les anciens, c'est, quand on dit comment bien vivre, bien, eux autres, c'était la vertu. La vertu qui était la recherche de comment bien vivre, dans le fond, la pratique de la vertu. Et j'ai comme l'impression, je ne sais pas si je me trompe, que Pierre Hadot n'a pas beaucoup abordé cet aspect-là. De la vertu, à parler des exercices spirituels. Est-ce que ma perception est juste?
Bien, moi, je pense que ta perception est juste. Lorsqu'on lit Pierre Hadot, bon, on prend qu'est-ce que la philosophie antique? On prend son livre qui est le plus connu sur la philosophie comme manière de vivre, là. Qu'est-ce que la philosophie antique? Puis là, Pierre Hadot nous fait une description de la philosophie, nous dit la philosophie, ça se rapporte à la sophia, qui est une sorte de savoir-faire, un savoir pratique qui fait qu'on va tendre vers le bien. Il nous parle de Platon, de Socrate, puis il s'arrête en main et dit, dans le fond, tout ça, c'est une certaine manière de vivre de façon vertueuse. Et là, il nous parle de l'arrêté, la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. Et puis, curieusement, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Alors que pourtant, la philosophie de Platon, dans les dialogues, on s'aperçoit que ça revient souvent, l'effort pour définir la vertu. Chez Aristote, on a quand même une caractérisation des vertus les plus importantes. Mais Pierre Hadot ne développe pas ça. C'est un peu comme si, au fond, sa découverte de la philosophie comme manière de vivre allait absorber la préoccupation que les philosophes en éthique avaient consacrée à l'idée de vertu. Pour l'auditeur, là, pour nous comme auditeurs, on dit la vertu, c'est quoi? On parle du courage, on parle de la modération, on parle de la prudence, de la justice. Donc, c'est une... Aristote définit la vertu comme la capacité à devenir bon, la disposition qui fait qu'on devient excellent, qu'on devient cette manière de parfaire nos actions pour réussir finalement à être à la hauteur de nos exigences morales. Donc ces vertus-là, eh bien, elles sont importantes en philosophie antique, autant qu'on sache, et Pierre Hadot n'insiste pas particulièrement sur les vertus. Ce n'est pas qu'il n'en parle pas, c'est un peu comme si la découverte, finalement, des exercices spirituels ou des pratiques absorbait la notion de vertu. Est-ce que c'est ce que tu as retrouvé toi aussi, Jacques?
Ben oui, tu sais, parce que moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup là, les écrits de Pierre Hadot, entre autres, là, c'est les exercices spirituels qu'on utilise, nous, qu'on en a beaucoup parlé à l'émission, que des pratiques comme la marche, exemple, et, etc. Mais la vertu, là, j'ai dit, bien là, ça ne sera pas Pierre Hadot qui va m'éclairer. Là, j'ai utilisé le livre d'André Comte-Sponville qui a écrit un livre juste sur ça, les vertus. Alors, il y en a je pense, une vingtaine là, dans son livre. Là. Alors, on en
le
pense,
petit traité des grandes vertus.
Le petit traité des grandes vertus. Puis...
Mais ça me permet de compléter en disant qu'il y a aussi des vertus théologiques. Et ça, c'est associé à la religion. Et Pierre Hadot fait un effort quand même pour s'ancrer de plein pied en philosophie et pour lui, les exercices spirituels, le choix d'un genre de vie. Alors, c'était plus important pour lui que d'essayer. Mais en même temps, la vertu, on la trouve chez Socrate. À peu près toutes les écoles vont avoir un rapport à la vertu. On a ça aussi chez Épicure. Il y a à peu près juste les sceptiques qui ne développent pas vraiment de réflexion sur la vertu. Mais les autres écoles, ça reste important en philosophie antique. Mais, je le concède, ça ne semble pas être prioritaire ou d'être primordial pour Pierre Hadot.
Puis... Comme curieusement, si on pense à Aristote là, qui écrit son livre là, L'Éthique à Nicomaque, là, qui parle à son garçon, je pense, qui est Nicomaque, et qui parle comment c'est important la pratique de la vertu pour être heureux. Parce qu'Aristote, lui, ben, tous les philosophes, dans le fond, c'était ça, comment bien vivre, comment être heureux, dans le fond. Et c'est quand même drôle que Pierre Hadot n'a pas abordé ça, cet aspect-là, mais je peux comprendre que lui, il voulait nous expliquer que la philosophie, ce qui est très important, que la philosophie antique, c'est un mode de vie. Puis ça,
il ne l'a pas abordé, mais il est au courant de tout ça. Là, ouais, je pense aux épicuriens, puis je vais compléter avec ça. Il dit, au fond, regardez, chez les épicuriens, c'est une vie en communauté. Et les épicuriens, tout comme chez Aristote, avaient une relation à l'amitié comme étant une vertu véritable. L'amitié est une vertu, c'est une forme d'excellence. On peut être débutant, un amateur en amitié, puis on peut avoir développé l'amitié comme excellence, comme vertu, et pour lui, c'est une condition du bonheur. Pour Épicure, c'est une condition du bonheur et de la réalisation de soi. Et effectivement, on ne vit vraiment le plaisir qu'avec des personnes significatives pour nous, selon Épicure. Pierre Hadot en est conscient, mais effectivement, à nouveau, il n'a pas tant insisté là-dessus, mais à l'égard de certaines écoles, il l'a exprimé. Donc, la vertu d'amitié, qui est très importante pour Aristote, se retrouve aussi chez les épicuriens, puis Pierre Hadot l'a relève.
En passant, pour nos auditeurs, là, on parle beaucoup de Pierre Hadot. Effectivement, il a écrit beaucoup, il y a plusieurs livres Pierre Hadot qui sont vraiment excellents, mais pour quelqu'un qui veut s'initier à Pierre Hadot, je pense que qu'est-ce que la philosophie antique, c'est pas mal un des meilleurs. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il y aurait qu'est-ce que la philosophie antique, et puis il y aurait aussi un livre d'entretien avec Jamy Carlier qui s'appelle « La philosophie comme manière de vivre », des entretiens qui permettent de comprendre le parcours de Pierre Hadot, ses préoccupations, puis finalement, avec ce livre-là, de son œuvre. Mais oui, ce serait « Qu'est-ce que la philosophie antique » paru chez Gallimard en 1995.
Et qui est disponible là, aux éditions Folio, je pense que c'est 10 $, oui. Là, c'est vraiment pas cher, puis c'est un très bon livre. Écoute, on va prendre une dernière pause musicale, puis on va conclure l'émission avec la question que j'abordais tantôt quand je parlais de la pièce musicale là, de Jean-Marc Aurel, « Respecte la vie ». Est-ce que la question que je pose, parce que ça aussi, Pierre Hadot, c'est pas un écologiste, là, Pierre Hadot, c'est un helléniste, alors il n'a pas abordé là, l'idée de la crise écologique, puis nous, en Saint-Pierre-Volontaire, on parle beaucoup d'écologie, sauf que je suis certain que les anciens étaient, dans le fond, les anciens philosophes étaient des philosophes dans l'âme, pas des philosophes, mais des écologistes dans l'âme. Alors, je voudrais que tu abordes cette idée-là au retour de la pause musicale.
Je vais le faire avec plaisir.
Bon, alors, il nous reste 4 minutes là, pour conclure l'émission. Donc, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Là? Est-ce que les anciens étaient des écologistes dans l'âme?
D'abord, d'abord, la crise écologique, et là-dessus, tu parles avec quelqu'un qui s'intéresse à la philosophie, mais qui est aussi un environnementaliste, comme tu sais. La crise écologique, c'est un problème qui n'existe pas vraiment avant les années 60 aux États-Unis, en Europe. Même chez Henry David Thoreau, chez John Muir, il n'y a pas tant, il n'y a pas de... Il y a une relation à la nature, il y a une sensibilité à la nature, mais il ne peut pas y avoir encore de crise écologique, même pour des personnes qui sont particulièrement éveillées à la destruction, qui vont constater autour d'eux. Je pense à Thoreau puis à John Muir. Donc, la notion de crise écologique, c'est récent, ça. On peut certainement revenir aux années 60 pour prendre la mesure de ça. Or, chez les philosophes, la réflexion à la nature, c'est pas tant par rapport à la crise écologique que par rapport au réel. C'est-à-dire que pour Adot, pour Michel Foucault, il y a souvent des descriptions de quelle façon les philosophes vont se réconcilier avec le monde, de quelle façon ils vont se rapprocher de la nature. Dans le fond, ce que j'aimerais te dire, puis j'aimerais citer un passage de Marc Aurèle, c'est que la nature, pour les anciens, c'est une référence au réel. Pour nous, souvent, c'est le langage qui est la référence à la vérité, alors que pour les anciens, la relation avec le réel, c'est la relation avec la nature. Si c'est en relation avec la nature, c'est réel, c'est vrai, le langage, c'est pas suffisant, alors que pour nous, souvent, on est arrimé au langage. Et là, on arrive donc à, chez les stoïciens, s'accorder à la nature, pour un stoïcien, c'est vivre réellement, c'est vivre avec sa raison, c'est vivre avec ce qui est le plus englobant. J'aimerais juste te citer, pour compléter ma réponse, te citer une des pensées de Marc Aurèle. Une des pensées de Marc Aurèle où on voit très, très bien de quelle façon un stoïcien comme l'empereur Marc Aurèle va s'intégrer complètement au cosmos. Je cite les pensées de Marc Aurèle. « Tout ce qui est accordé avec toi est accordé avec moi au monde, aux natures. Rien de ce qui, pour toi, vient à point n'arrive, pour moi, tôt ou tard. Tout ce que produisent tes saisons aux natures est un fruit pour moi. Tout vient de toi, tout réside en toi, tout retourne en toi. » Et là, on comprend que le stoïcien va s'intégrer complètement au cycle, au processus naturel, et c'est ça la relation avec la nature. On comprend que on n'est pas écologiste ici, mais en vivant près de la nature, on vit près de la vérité, on vit près du réel, on est dans une perspective englobante et on fait appel à notre raison. Est-ce que c'est ce que tu comprends toi aussi, Jacques?
Oui, ben écoute, comme je te dis, là, moi, il faudra qu'on en discute ensemble encore de cette idée-là.
Ça veut dire que ma réponse te surprend. Je pense avoir déjà dit que Platon était sensible à la déforestation qu'il constatait autour de lui en Attique. Mon souvenir, c'est que dans le Critias, Platon déplore la coupe des arbres. Il déplore la déforestation. Mais on ne peut pas dire que Platon est sensible à l'écologie ou à l'environnement. Ça n'existe pas. C'est une préoccupation qui va apparaître beaucoup, beaucoup plus tard. Et on est apporté à associer Thoreau à l'environnement, aux environnementalistes, mais Thoreau comme tel, il est sensible à toutes sortes de choses qui le concernent autour de lui, mais il n'y a pas encore de crise écologique en 1840 à 1860, à l'époque du Walden, 1845, il n'y a pas encore de crise écologique. Donc, il faut faire attention de ne pas projeter nos propres préoccupations sur Platon, de projeter nos préoccupations sur Thoreau ou sur d'autres auteurs en disant, regardez, ils sont écologistes avant la lettre. La plupart du temps, c'est pas le cas. Ils ont une conscience différente de la relation à la nature, mais ils sont pas nécessairement écologistes ou environnementalistes, ces auteurs-là.
Peut-être qu'il faut rester avec la pièce musicale de tantôt, qui était certainement « Respecte la vie ». C'était vraiment une de leurs...
Tu vois, Jacques, j'ai une préoccupation sincère et à l'égard de la cohabitation avec soi-même, hein, maintenir sa santé mentale, la cohabitation avec les autres, maintenir des relations significatives, harmonieuses, vivre dans la concorde, puis aussi une préoccupation à l'égard de la nature, de vivre en relation avec la nature, mais en réalité avec tout le vivant. Là-dessus, je suis proche de l'écologie profonde. Mais de vivre en accord avec le vivant comme biodiversité, comme la vie qui nous entoure, on trouve ça à partir de quand? On va retrouver ça dans les années 70 en écologie profonde. Ce qui fait que même si les stoïciens, puis dans les pensées de Marc Aurèle, on va trouver ça, il y a une sensibilité à l'égard de la vie, à l'égard du vivant. Mais il ne faut pas oublier, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est une perspective qui est très différente de la nôtre. La nature représente le réel, la vérité, et en s'accordant à la nature, on s'accorde avec le tout, on s'accorde avec la raison, avec quelque chose qui est plus englobant, quelque chose qui nous dépasse, qui nous enjoint de devenir meilleur, un petit peu comme si c'était une divinité. Et c'est ça la relation à la nature, c'est la relation à quelque chose qui est plus grand que nous. La nature, la physique, c'est ce qui croit, ce qui se développe. Et chez les anciens, effectivement, c'est quelque chose qui est assez différent de nos préoccupations à l'égard du respect de la vie et de la biodiversité. Ce n'est pas possible pour eux.
Bon, écoute, Daniel, bon, j'aurais aimé qu'on continue la discussion, mais malheureusement, on doit terminer l'émission. Ça serait agréable si on pourrait se reprendre un moment donné. Je sais que toi, tu vas commencer ta session de cours, donc ça ne pourra pas être avant probablement le printemps, mais en tout cas, on pourra poursuivre cette discussion-là que je trouve qui mérite d'être poursuivie.
D'accord, puis peut-être au bénéfice des auditrices et des auditeurs qui se demanderaient de quelle façon on peut en savoir un tout petit peu plus sur ce thème et ce sujet-là, je saisis la balle.